Et voilà, les signes du temps de la fin. Dans le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, nous avons vu les disciples ont demandé un signe pour la fin des temps et un signe pour le retour de Christ, donc en tout deux. Mais le Seigneur leur a donné toute une série de signes, en tout plus de 20. Mais il est important de comprendre que ces signes sont appelés des douleurs de l'enfantement. Matthieu 24, 8, le Seigneur présente quelques-uns de ces signes et conclut « Mais tous ces événements sont un commencement de douleur de l'enfantement. » N'est-ce pas? Nous savons que les douleurs de l'enfantement qui annoncent la fin de l'époque de la grossesse n'arrivent pas une seule fois, mais ils arrivent cycliques, d'une manière cyclique, répétitive. Elles se répètent et dont la tendance, ces signes deviennent toujours plus fortes et plus douloureuses. Et tout à la fin, n'est-ce pas, l'escalade des douleurs, mais finalement la grande joie, un enfant, un homme, un être humain entre dans le monde. Et voilà, il y a donc une raison profonde pourquoi le Seigneur utilise cette comparaison. Donc les signes dans le discours du Seigneur en vue des derniers temps sont rapprochés à des contractions. N'est-ce pas? L'époque dans laquelle nous vivons actuellement est appelée dans la Bible le présent siècle. Éphésiens 1, 19 parle de ce siècle et le siècle futur, c'est l'époque où Jésus-Christ, comme Messie, régnera sur la terre. Donc maintenant, c'est le présent siècle. Et voilà, Matthieu 24, 3, les disciples demandent littéralement quel est le signe de la fin de ce siècle. Aion, ce qui correspond à l'hébreu aux larmes. Et voilà, de cette époque présente, ce présent siècle, et voilà, ce présent siècle est donc comparé avec le temps de la grossesse, qui est aussi une période, dans ce cas-là, une période de 9 mois. Et comment on peut savoir que le temps de la fin en rapport avec la grossesse, est arrivé, eh bien, il faut connaître les signes, les contractions. Bien sûr, c'est possible que des contractions arrivent déjà au 7e mois, mais quand on connaît un peu, on remarque que ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Il faut distinguer. Pas n'importe quel tremblement de terre serait un signe de la fin. Il faut distinguer entre les vrais et les faux. Si on peut dire comme ça, contraction. Et voilà, les contractions sont donc en parallèle avec ces plus de 20 signes du Seigneur. Et voilà, le Seigneur présente d'abord 5 signes et les appelle le commencement des douleurs. 1. Guerre générale. 2. Révolution. 3. Famine. 4. Épidémie. 5. Séisme. Et après, le Seigneur dit, ensuite, terrible persécution des chrétiens. Il faut donc bien lire le texte, exactement lire chaque mot pour comprendre aussi les connexions temporelles entre ce que le Seigneur présente. Eh bien, on peut dire, c'est pour ça notre titre, des guerres générales, des révolutions, des famines. On a toujours eu. Mais comment ça peut être un signe de la fin? Eh bien, nous allons maintenant compter les signes que le Seigneur mentionne. Et le premier signe, j'ai appelé guerre mondiale. N'est-ce pas? En Matthieu 24, le Seigneur dit, verset 6, « Vous entendrez donc parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous laisser troubler, car il faut que tout cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. Nation, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. » Eh bien, vous avez compris. À partir de 1882, les Juifs ont commencé à retourner en masse. À cette époque, on a pu se rappeler des prophéties de l'Ancien Testament. Dans les derniers temps, les Juifs vont retourner. Ce qui était impossible pendant 2000 ans, presque, tout d'un coup, se réalise. Et quelques années plus tard, voilà la Première Guerre mondiale, 1914 à 18. Et quelques années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale, 39 à 45. La Première Guerre mondiale avec environ 23 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, on estime entre 50 à 80 millions de morts. Et n'est-ce pas, nous utilisons ces termes tout normalement, Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi on ne dit pas Dixième et Onzième Guerre mondiale ? Parce que ce phénomène de guerre mondiale qui en inclut tous les cinq continents, c'est un phénomène nouveau du XXe siècle. Et cela quelques années après le commencement du retour des Juifs au pays des ancêtres. Et vous voyez, le Seigneur dit, pas simplement vous vous entendrez parler de guerre, mais il dit, verset 7, « Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. » Il parle de guerre de masse, voyez. Et en plus, le Seigneur parle aussi de guerre étendue et générale, puisqu'il dit, « Vous entendrez parler de guerre, donc ce qui est tout près de vous, et de bruit de guerre. » C'est quelque chose qui est très éloigné. Rappelez-vous de la Deuxième Guerre mondiale. N'est-ce pas, en Suisse, on savait ce qui se passe en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche. Mais voilà, on a entendu parler de guerre. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé au Japon avec les bombes atomiques? On n'a rien senti, n'est-ce pas? Mais c'était des bruits de guerre de la fin du monde, on peut dire. C'est exactement ce que le Seigneur annonce ici. Voyez, tous les pays, sauf les pays gris, Hongrie, qui étaient inclus dans la guerre, de la Première Guerre mondiale, sur tous les cinq continents, et encore pire, voilà, la Seconde Guerre mondiale. Seulement les parties Hongrie étaient exclues, comme par exemple la Suisse au centre de l'Europe, c'est aussi gris. C'est terrible, mais c'était des douleurs d'enfantement pour ce monde, et c'était terriblement douloureux. Eh bien, j'ai créé ce schéma. Vous voyez, 1882, les Juifs commencent à retourner en plusieurs voies jusqu'à aujourd'hui. Et tout à la fin, Jésus-Christ va revenir, mais deux signes, ils font partie du commencement des douleurs, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et j'aimerais attirer notre attention particulièrement sur ce qui était là au début, quelques années après le commencement du retour des Juifs. Mais le Seigneur, clairement, dit en Luc 21:9, « Ne vous épouvantez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais la fin n'aura pas lieu aussitôt. » Donc c'était correct de dire, à l'époque de la Première Guerre mondiale, nous sommes dans les derniers temps, Jésus-Christ va revenir. Mais, le Seigneur dit, mais la fin n'aura pas lieu aussitôt. Révolution, deuxième point. Luc 21:9, quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, en grec, « akatasasiai », ne vous épouvantez pas, car il faut que cela arrive d'abord. Mais la fin n'aura pas lieu aussitôt. Marc 13, verset 8, « Et il y aura des troubles », en grec, « tarachai ». Ce sont des commencements de douleur. Eh bien, voilà les termes grecs, « akatasasiai » et « tarachai », qui veulent dire « révolution, sédition, soulèvement populaire ». Émeute, perturbation du calme habituel, agitation, consternation, tumulte. Eh bien, les Juifs ont commencé à retourner, 1882. D'ailleurs, à l'époque, surtout depuis la Russie. Des milliers. Et quelques années plus tard, révolution russe. 1905 à 7. Mais les tsars étaient assez forts pour surmonter finalement. Mais en 1917, d'abord, la révolution civile et ensuite Lénine est parti de la Suisse pour aller à Leningrad, à Pétersbourg. Et voilà, il a suscité et changé la révolution civile en la révolution communiste. Et dans la suite, l'Union soviétique s'est créée. Et 1911 jusqu'à 1949, révolution en Chine, guerre civile à travers ces dizaines d'années. N'est-ce pas, on pourrait continuer avec la révolution culturelle en Chine, 1966 à 1969, où peut-être 7 millions de personnes sont mortes. La révolution islamique en Iran, 1979, Intifada 1 et 2 en Israël. Mais j'aimerais attirer l'attention sur le début. Voyez, les Juifs retournent, révolution. Révolution en Russie, révolution en Chine, de nouveau révolution en Russie et dans la même époque, la Première Guerre mondiale. Ensuite, trois, famine aiguë. Le Seigneur dit, Matthieu 24, verset 7, « Il y aura des famines en divers lieux. » Eh bien, il y avait comme conséquence des guerres mondiales, des famines terribles. Et comme conséquence des révolutions communistes, des famines terribles, par exemple, 1932-33 en Ukraine et Russie, 8 millions de morts. Qui se rappelle encore de ça? Parce qu'on n'avait plus à manger. N'est-ce pas? Je pourrais continuer. La plus grande famine de l'histoire mondiale, semble-t-il, c'était 58 à 62. Avec 43 millions de morts. C'était l'époque où les communistes voulaient faire le grand pas d'avant et en avant. Et voilà, c'était une catastrophe inimaginable. Mais j'aimerais parler du commencement des douleurs. Vous voyez, les Juifs qui retournent, les révolutions, la Première Guerre mondiale et les famines en relation directe avec la guerre mondiale et les révolutions. Et voyez, ce n'était pas des révolutions limitées à quelques petits endroits, mais d'une signification à l'échelle mondiale. Car finalement, des centaines de millions de personnes ont été mises à la prison du communisme. Quand j'ai parlé des famines aiguës, n'est-ce pas, on pourrait aussi parler des famines chroniques. Cela veut dire on a à manger, mais trop peu. On a appelé le 20e siècle le siècle des famines. Remarquable, n'est-ce pas? Où des centaines de millions de personnes ont souffert de famines chroniques. N'est-ce pas? C'est explicable. Et la population mondiale vers 1900, 1,6 milliard. Et aujourd'hui, 6,5 milliards. Bien sûr, il y aurait assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Mais à cause de l'injustice, des dictatures, etc., c'est pas possible. Et nous sommes habitués à ce fait que, déjà au XXe siècle, an après an, 8 millions meurent chaque année. Et aujourd'hui, environ 1 milliard d'hommes va aller au lit souffrant de la faim de façon chronique. C'est terrible, n'est-ce pas? Quatrième point, épidémie. Matthieu 24, 7, il y aura des épidémies en divers lieux. En grec, loimoi, épidémie, peste, maladie, veut dire ce terme grec. Eh bien, juste après la Première Guerre mondiale, voilà la grippe espagnole, 1918-19, qui a tué environ 50 à 100 millions de personnes à l'échelle mondiale. C'était une catastrophe si terrible qu'aujourd'hui, on craint tellement de nouveau une telle grippe qui pourrait tuer donc des dizaines de millions d'êtres humains. N'est-ce pas? Je pourrais maintenant parler du sida qui a atteint des dizaines de millions et qui a déjà demandé des millions de morts. Je pourrais parler de hépatite B et C qui est peut-être encore plus grave que le sida. N'est-ce pas? On pense en Allemagne, par exemple, on connaît le chiffre de 800 000 qui sont atteints par hépatite. Et ce qui est terrible, la plupart ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont reçu cette maladie. Et on pourrait parler de variole qui a tué au XXe siècle des centaines de millions. On pourrait parler des 100 millions de morts par la nicotine, comme l'ONU, il y a quelques années, avait déclaré. Mais j'aimerais attirer la vue vers le début. Les Juifs qui retournent, les révolutions, guerre mondiale, et voilà, grippe espagnole. N'est-ce pas? Il est vrai, il y a toujours eu des épidémies, mais ce que le Seigneur indique est à voir en rapport avec les derniers temps où le peuple juif retourne. N'est-ce pas la peste au Moyen-Âge? Ça n'avait rien à faire avec le retour des Juifs. Et par conséquence, ce n'était pas un signe des derniers temps. Mais vous voyez, donc, tout lié ensemble dans la même petite époque d'année, après le commencement du retour des Juifs. Vous trouvez chaque signe, mais d'une façon extraordinaire. 5. Tremblement de terre. Matthieu 24, 7. Il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux. Eh bien, en Inde, 1905, tremblement de terre avec 19 000 morts. 1908, Messine, Sicile, Calabre, 72 morts. Chine, 1920, donc juste après la révolution en Russie, juste après la Première Guerre mondiale, et voilà, 200 000 morts. Je ne parle pas des blessés. Japon, 1923, 150 000 morts. Chine, 1927, 41 000 morts. N'est-ce pas? Je pourrais maintenant continuer jusqu'à aujourd'hui. J'ai une fois compté ensemble les quelques 140 séismes majeurs qui ont tué au XXe siècle 2,3 millions de personnes. Mais vous voyez donc cette accumulation. D'ailleurs, Luc 21, 11 dit « Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. » Et vous voyez, ce commencement des douleurs est concentré dans quelques années seulement, à l'époque où les Juifs ont commencé à retourner. C'est ça qui est remarquable. Chaque point est présent, mais pas... Oui, qu'on pourrait dire oui, bien sûr, il y avait beaucoup de malades dans tel et tel pays. Non, vraiment des catastrophes bien visibles à l'échelle mondiale. Mais le Seigneur dit, mais la fin n'aura pas lieu aussitôt. 6, 7 et 8, je prends ensemble. Persécution des chrétiens, mort, haine. Voilà, le Seigneur dit au Matthieu 24, 9. Alors, après ces 5 signe du commencement des douleurs. Alors, ils vous livreront pour vous faire souffrir et ils vous feront mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Dans ces versets de persécution, vous ne lisez plus du terme synagogue. Non, ici, il s'agit d'une persécution des chrétiens des croyants en le Messie juste après ces cinq premiers signes des derniers temps. Et voilà, dans les années 1920, en Union soviétique, on a pris la décision de détruire le christianisme dans l'Union soviétique. Et Staline, il a effacé des millions. Encore il y a quelque temps, j'ai parlé avec une vieille sœur allemand-russe qui m'a raconté comme elle a vécu, comme Staline avait tué son père. N'est-ce pas? Ce sont encore des événements qui ne se trouvent pas seulement dans les livres historiques, mais on a maintenant encore des personnes en vie qui peuvent en témoigner. Et c'était une des plus grandes persécutions des chrétiens de toute l'histoire de l'Église. Et voilà, en plus, au XXe siècle, la persécution des chrétiens dans les pays islamiques. On peut dire que le plus grand nombre de martyrs chrétiens ont été tués au XXe siècle. Et vous voyez, tous ces signes du commencement ensemble, et ensuite le Seigneur dit, « Alors ils vous livreront pour vous faire souffrir et vous feront mourir. » Exactement après ces cinq signes, cela s'est réalisé en Union soviétique. Ici, vous voyez les pays musulmans où actuellement à peu près 200 millions de chrétiens sont sous pression par la persécution, qui va souvent pas seulement jusqu'à la haine, mais même jusqu'à la mort. Eh bien, 9, apostasie sous la contrainte. Le Seigneur dit, dans la suite de l'annonce de ces persécutions, Matthieu 24, 10, « Alors !» Donc, dans la conséquence de cette persécution, Alors, beaucoup succomberont. Et c'était un fait. Des millions de personnes ont abandonné la foi chrétienne, étant contraints à l'athéisme en Union soviétique et en Europe de l'Est. N'est-ce pas? Dieu prend au sérieux chaque homme et chaque femme qui se dit chrétien. Je ne pose pas encore la question qui est né de nouveau ou pas. Mais qui a cette confession pour Christ? Eh bien, le Seigneur annonce donc une apostasie, que beaucoup vont succomber et se détourner de la foi chrétienne. 10, dénonciation. Matthieu 24, 10, le Seigneur dit, « Alors beaucoup succomberont, se dénonceront l'un l'autre. » Eh bien, les communistes, les marxistes ont décidé, ont fait cette persécution en travaillant ensemble avec le peuple. C'est-à-dire, la police secrète s'infiltre dans le peuple en général et même dans les familles. Donc, on n'était pas sûr si l'homme qui habite juste à côté, qui dit toujours gentiment bonjour le matin, était lié avec le KGB, la police secrète ou pas, ou la Securitate, ou n'importe quelle police secrète. Et même dans la famille, on n'était pas sûr. Donc, ils se sont dénoncés l'un l'autre. 11, disparition de la confiance mutuelle. Voilà, le Seigneur dit, alors beaucoup succomberont, se dénonceront l'un l'autre, se haïront l'un l'autre. Comme conséquence, à travers des dizaines d'années, on ne pouvait plus être sûr à qui donner la confiance. Cela a déclenché donc une haine générale parmi les pays sous la domination du communisme et de l'athéisme. 12. Persécution à l'intérieur de la famille. Marc 13, 12 précise. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Terrible. La police secrète s'est infiltrée même dans les familles. Quand je parle de cette apostasie dans les pays athées, apostasie forcée, il faut que je parle aussi de l'apostasie volontaire. Car l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, parle du retour de Christ en gloire. Car ce jour-là ne viendra pas avant que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et voilà, à l'ouest, la société s'est détournée du christianisme sans être forcée. Simplement par la séduction de la théologie libérale, de la doctrine d'évolution en biologie et par le néo-marxisme dirigé par des gens comme Marcuse, Herbert Marcuse et beaucoup d'autres. Des millions d'hommes abandonnent la foi chrétienne. La théologie libérale rejette toutes les bases du christianisme. L'Occident se détourne du christianisme, mais sans être forcé. À la même époque, à l'Occident et à l'Est. 13. Faux prophètes. Le Seigneur dit en Matthieu 24, 11, « Beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. » Donc, on doit s'attendre, dans l'époque où les Juifs vont retourner au pays des ancêtres, à l'époque où des guerres générales et des révolutions, des famines vont se succéder, il doit y avoir un mouvement de beaucoup de faux prophètes. Eh bien, à travers l'histoire du XXe siècle, à partir de 1906, on a vu une première vague, 1960, une deuxième, 1985, une troisième vague, avec des nouveaux prophètes et plein de fausses prophéties. Par exemple, les prophètes qui ont annoncé pour l'an 2000, le plus grand réveil de tous les temps arrive sur l'Europe et l'Amérique. Eh bien, 2011, on peut dire, c'était tous des faux prophètes. Et voilà, selon Deutéronome 18, un prophète qui, une fois, se trompe, n'est pas un prophète de Dieu. Donc, la parole est ici claire. Et nous voyons donc, tout à fait au XXe et XXIe siècle, des millions de personnes dans le christianisme qui ont des révélations, des visions, des messages en langue, etc. Et voilà, c'est exactement ce que le Seigneur annonce. 14. Séduction d'un grand nombre. N'est-ce pas, le Seigneur ne dit pas seulement « beaucoup de faux prophètes se lèveront », mais il dit aussi « et séduiront beaucoup de gens ». Et on peut dire qu'aujourd'hui, à peu près 6 millions écoutent des nouvelles prophètes, au lieu d'écouter simplement la parole de Dieu. La réforme était un retour à la parole de Dieu. On ne parlait pas de nouvelles révélations. 15. Signes et miracles. Le Seigneur dit, Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes. Ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. » Et voilà, à travers du XXe siècle, on a vu des spectaculaires manifestations de guérison miraculeuse, avec chute en arrière. La bénédiction de Toronto atteint 50 000 églises dans le monde, et des millions de personnes parlent en langue, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Tandis que dans la Bible, ceux qui parlent en langue savent exactement ce qu'ils disent. Le Seigneur dit en Matthieu 7, 22, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous en loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Donc, on peut penser d'être du bon côté et être du faux côté. C'est vraiment douloureux parce que ça nous touche tous. Nous faisons tous partie du témoignage chrétien et nous sommes atteints par ces douleurs. Et maintenant, 16, inondation, tsunami. Le Seigneur dit en Luc 21-25, « Et sur la terre, une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. » Vous vous rappelez encore, Inde, Sri Lanka, Maldives, Indonésie, Thaïlande, 2004, ce terrible tsunami avec environ 300 000 morts. Et juste l'an d'après, 2005, ras de marée dû à l'ouragan Katrina, Nouvelle-Orléans, inondation catastrophique. Ensuite, Rita, à Texas, inondation de 6 mètres de haut, peur et panique pour plus d'un million d'hommes en fuite. Ensuite, Vilma, en Mexique, Cuba, Floride. Mais je pourrais aller en arrière. Java, Sumatra, 1883, juste après le commencement du retour des Juifs. 36 000 morts par des vagues de 30 mètres de haut. Japon, 1896, 26 000 morts. Et j'ai déjà parlé de ce tremblement de terre de 1908 en Messine, Sicile et Calabre. Et je n'ai pas encore expliqué que c'était en même temps un tsunami. En tout, 72 000 morts. 17, terrorisme. Luc 21, 11. Le Seigneur dit, « Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des sujets d'épouvante. » Qu'est-ce que ça veut dire, des sujets d'épouvante? Eh bien, il faut prendre le grec. En grec, « phobêtre » veut dire « événement terrible, effrayant, terreur ». N'est-ce pas le terme « terrorisme » ça vient, ou « terreur », ça vient de « terror »,« terroris » en latin, qui veut dire justement, épouvante, peur. Donc, les événements qui font peur, le terrorisme international, est un enfant du XXe siècle. Celui des gauchistes et celui des islamistes. Et voilà, le terrorisme islamique a connu quatre phases. La première phase, 1920, plus terrible depuis 1948, encore plus terrible depuis la guerre des six jours, 1967, et la quatrième phase, nous connaissons 2001, 11 septembre. Et voilà, nous sommes tous touchés. Ce sont des douleurs d'enfantement. 18, je vais aller jusqu'à 20. Mépris du droit, décadence morale. Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité, en grec anomia, ira croissant, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Eh bien, le terme anomia veut dire en grec iniquité, bien sûr, mais aussi mépris du droit, des principes et de l'ordre. Et voilà, par cette révolution sexuelle, en 1968, la moralité chrétienne a été détruite en Occident, en Europe et en Amérique. Publiquement, on a demandé que l'immoralité soit acceptée comme le concubinage, les partenaires multiples, adultère, homosexualité, pornographie, violence, et par cela, la conséquence d'une violence croissante. L'impiété, occultisme, drogue, criminalité croissante, voilà des effets de ce mouvement de 1968. C'était un changement fondamental dans l'histoire de l'Occident. Et dans cette époque, on a aussi publiquement demandé le droit de la femme pour l'avortement, c'est-à-dire pour tuer l'enfant dans le ventre. Et effectivement, le lieu le plus dangereux dans le monde, c'est le ventre de la mère. Car aujourd'hui, selon l'ONU, 40 millions d'avortements par an mondialement. C'est-à-dire le quart des grossesses à l'échelle mondiale finissent par la mort. Et voilà, on peut dire, depuis l'époque 1968 jusqu'à aujourd'hui, on a tué à l'échelle mondiale plus d'un milliard d'enfants. N'est-ce pas? Il y a quelques semaines, on a fêté Noël et on a pensé à Hérode qui a tué les enfants de Bethléem, mais c'était rien comparé au temps moderne, où on s'est détourné des valeurs et des commandements chrétiennes dans la Bible, parce que l'iniquité ira croissant. Et 19, refroidissement de l'amour. N'est-ce pas? C'est la conséquence. Le Seigneur dit, parce que l'iniquité ira croissant, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Mesdames et messieurs, toutes ces choses que la Bible appelle du péché détruisent quelque chose en nous. Et nous sommes tous touchés. N'est-ce pas? On peut faire un calcul combien d'enfants, par exemple, dans les années 20 ans passés, ont été tués en Suisse. Et on peut calculer avec le nombre de familles en Suisse. Et on va réaliser, mais facilement, on est, par la parenté, touché par ce problème. Et cela détruit quelque chose en nous. Et aussi cette immoralité du concubinage, partenaire multiple, adultère, homosexualité, pornographie, cela détruit quelque chose en nous. Et le Seigneur dit, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Et je finis par 20. L'Évangile atteint toutes les nations du monde. Voilà, Matthieu 24, 14. Et cet Évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Marc 13, verset 10. Mais il faut qu'auparavant, l'Évangile, simplement l'Évangile, pas l'Évangile du royaume, l'Évangile soit prêché dans toutes les nations. Eh bien, à 1800, la Bible a été traduite en environ 70 langues différentes. Après, on avait ce grand réveil en Europe et en Amérique du Nord. Et aussi, on a retrouvé dans la Bible le commandement pour la mission mondiale. 1830, la Bible en 157 langues différentes. Et aujourd'hui, 2011, la Bible en plus de 2400 langues. La Bible en entière ou des livres de la Bible. Et voilà, Audio Gospel, qui donne dans le monde entier des messages bibliques en 6000 langues et dialectes sur CD, etc. C'est fantastique. Et maintenant, aussi par la radio et l'Internet, l'Évangile, même dans les pays fermés. Seulement dans notre époque, on a atteint toutes les nations du monde avec l'Évangile. D'ailleurs, si le Seigneur dit à toutes les nations, il faut voir clair, le terme grec c'est ethnos. Et ethnos est la plus grande entité sociale en grec. N'est-ce pas? La plus petite c'est le couple, ensuite la famille, ensuite le clan, ensuite la tribu. La Bible en parle des tribus. Plus loin, le peuple, en grec laos. Mais plus grand que laos est ethnos. Vous voyez? L'Inde, c'est une nation, mais composée de beaucoup de peuples et de tribus. Également la Russie, c'est une nation, ethnos, mais il y a beaucoup de Laoï, donc beaucoup de peuples, Laos. Et le Seigneur ne dit pas que l'Évangile atteint tous les êtres humains, non plus toutes les tribus, non plus tous les peuples. Il y a dans le monde entier à peu près 10 000 peuples, mais toutes les nations, et nous avons environ 200 nations dans le monde entier. Mais ils sont tous atteints dans notre époque. Et voilà, le Seigneur dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière et en témoignage à toutes les nations. Ça se fait maintenant. Et le Seigneur dit, mais la fin ne sera pas aussitôt. Non. Cela, le Seigneur a dit, en rapport avec les cinq signes du début, en rapport avec la Première Guerre mondiale. Mais là, il dit, et alors viendra la fin. On ne peut pas calculer, et on ne va pas faire cette erreur, comme plusieurs l'ont fait. Et c'est une honte. Mais nous avons les signes qui montrent que le Seigneur va bientôt venir. Voilà, trois conclusions. 1. Nous vivons au temps de la fin. Jésus-Christ vient bientôt comme juge du monde. Êtes-vous prêt à rencontrer le juge du monde? Mais comment c'est possible? Si on est vraiment sérieux, si on considère les commandements, les 10 commandements et les autres commandements dans la Bible, on réalise, nous sommes tous des pécheurs. N'est-ce pas? Tout récemment, j'ai tenu un débat public invité par les libres penseurs en Suisse alémanique sur le sujet de l'éthique. Et voilà, eux, ils pensaient, nous les chrétiens, on l'idée que seulement quand on connaît la Bible, on connaît ce qui est juste et injuste. Alors c'était un peu stupéfait de voir comme j'ouvre ma Bible, Romains 2, et j'explique que Dieu a donné, mis la conscience dans chaque être humain, même chez les nations qui n'ont pas de Bible, pour connaître ce qui est juste et injuste. Je dis, oui, c'est correct. Chaque homme a une éthique, aussi les athées et aussi les criminels. N'est-ce pas, lorsqu'ils doivent séparer ce qu'ils ont volé entre eux, ils ont clairement une éthique. Comment il faut faire? Nous avons tous une éthique, voilà. Mais nous devons dire que nous avons tous vécu contre notre propre conscience. Ce qui prouve que nous sommes des pécheurs. Bien sûr, nous connaissons ce qui est juste et injuste, mais nous avons tous vécu contre la conscience. Et nous ne pouvons pas nous mettre devant le juge. Mais comment être prêt? Je vais l'expliquer. 2. La Bible est la parole de Dieu pour nous. Elle est crédible. Il vaut la peine de lire la Bible régulièrement pour apprendre à connaître personnellement le message de Dieu pour nous. Si vous ne le faites pas encore, commencez demain matin à lire un passage, un chapitre, un demi-chapitre de la Bible. Priez Dieu de vous parler par la Bible. 3. Je dois revenir à Dieu et être réconcilié avec lui. N'est-ce pas? Nous sommes clairement convaincus par la réalité que nous sommes tous des pécheurs. Je n'ai pas dit nous sommes tous des criminels. Nous ne sommes pas tous des criminels. Mais nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Et la Bible nous dit, soyez réconciliés avec Dieu. Et en fait, c'est facile. On ne doit même pas chercher un prêtre ou un pasteur ou un... On peut directement aller vers Dieu dans la prière. Où? Là où on est. Et demander pardon et confesser les péchés desquels nous sommes encore conscients. Et remercier que Jésus-Christ, comme le Messie souffrant, est venu pour la première fois. Pour subir le jugement de Dieu, la colère de Dieu contre le péché. Et Jésus-Christ était abandonné à la croix de Dieu, afin qu'il soit toujours avec nous. C'est pour ça qu'il a ce nom Immanuel, Dieu avec nous. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, il ne faut pas avoir peur de la venue de Christ comme juge du monde. Parce que le juge, c'est mon sauveur. 1 Jean 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Il ne faut même pas un sentiment pour vivre cette réalité. Il faut simplement confesser à Dieu et dans la foi accepter. La joie va venir après, je vous assure. Eh bien, nous avons vu, nous sommes dans le temps de la fin. Et Jésus-Christ va revenir, d'ailleurs sur le mont des Oliviers, comme juge du monde, Zacharie 14. Mais avant, c'est aussi expliqué en Matthieu 24, il y aura la grande tribulation, la pire des guerres mondiales, de 3 ans et demi, nous dit la Bible. Mais avant, il y a encore une époque de transition, et l'antéchrist, le plus grand séducteur, va encore arriver sur la scène. Mais avant sa venue, l'enlèvement de l'Église. On peut prouver par plusieurs passages bibliques que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant. Et il ne faut pas que quelque chose soit encore réalisé avant l'enlèvement. L'enlèvement pourrait se réaliser aujourd'hui. Et la Bible nous dit, si on a entendu l'Évangile, l'enlèvement se réalise, on n'aura plus de chance. On ne peut plus retourner. C'est trop tard. C'est pour ça la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez la parole, la voix de l'Éternel, il ne faut pas endurcir le cœur. Alors l'enlèvement, c'est le mystère familial pour ceux qui sont déjà réconciliés avec Dieu. Et le Seigneur va venir nous enlever pour être mis à l'abri devant la plus grande catastrophe qui tombera sur le monde. La grande tribulation, Matthieu 24 en parle, et ensuite le retour en gloire du Seigneur Jésus, avec tous les croyants enlevés. Avant.